Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
C'était il y a un peu plus de 6 ans, le 7 janvier 2015, un carnage rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement de Paris. 12 morts, 11 blessés sous les balles des fusils d'assaut des frères Kouachi et un immense traumatisme pour les survivants bien sûr, mais aussi pour la France entière et au-delà, pour tous les défenseurs de la liberté d'expression. 6 ans après, une des rescapées de la tuerie de Charlie Hebdo, Coco, raconte son 7 janvier à elle dans un album poignant qui nous parle aussi de son combat pour se reconstruire à la force de son crayon. Entre angoisse et sentiment de culpabilité, entre souvenirs heureux et volonté farouche de résister et de se battre, voici Dessiner encore, paru aux Arènes BD, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Coco.
Bonjour.
Alors cet album, il sort quelques mois après le procès, hein, le procès des attentats de janvier 2015, pas uniquement Charlie Hebdo, mais aussi les autres. Comment est-ce que vous avez traversé cette période-là?
La période du procès? Ben, en fait, déjà, ça faisait un moment que je m'attendais. Alors, je dis que je me préparais, mais on se prépare difficilement à ça. Disons que c'était un moment aussi redouté qu'attendu, quoi, le passage devant la cour d'assises. Il a fallu que je me questionne et intérieurement, savoir ce que j'allais dire, comment j'allais le dire, de ces choses que j'avais pu traverser le 7 janvier et plus largement qu'on avait pu traverser à Charlie. Donc voilà, ça a été un moment assez très difficile intérieurement, mais je suis contente d'avoir dépassé ce moment.
Mais est-ce que l'album, pour reprendre votre expression, vous a permis, vous a aidé à vous préparer?
Oui, préparer, c'est j'ai utilisé ce mot, mais c'est vrai que c'est pas exactement ça. Disons que ça m'a aidé à trouver des mots justes, des mots précis, et puis à montrer ce que j'avais ressenti intérieurement. Il a fallu que je sonde tout ça pour pouvoir en rendre compte dans ce livre. Et de fait, le fait de l'avoir fait, oui, ça m'a aidé à poser certains mots. En tout cas.
Alors vous, c'est d'abord le dessin. Nous, à la radio, c'est le son. À la lecture de l'album, j'ai retenu quelques sons qui émergent de l'album et de vos dessins et qui vont nous servir en quelque sorte de balises sur le chemin que vous parcourez avec vos lecteurs dans cet album. Et le premier son, c'est le bruit d'une vague, une vague bleue. Alors parfois la vague est relativement tranquille, parfois la mer est un peu plus agitée. Et parfois, elle se fait tempétueuse. Et c'est par cette vague, par ces vagues, que vous nous faites entrer dans votre récit, Coco. Une vague qui vous submerge, qui vous emporte, qui vous engloutit parfois. Cette image-là, elle vous est venue tout de suite?
Oui, ça a été le moyen pour moi de trouver le lien entre le lecteur et moi, de lui faire voir ce que je ressentais, c'est-à-dire les tumultes en fait qu'on a en soi, la violence aussi qui vous prend, qui vous attrape, la violence de quoi, de ce traumatisme en fait, de ces images, de ce choc que vous ne maîtrisez pas en fait, ça vient d'un coup, vous bouffez quoi, vous bouffez la tête et c'est une lutte intérieure pour se sortir de ça. Quand on est pris dans un rouleau par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous roulez, vous ne savez pas à quel moment vous remontrez à la surface. Et ben, c'était un moyen pour moi de montrer ce questionnement.
Oui, alors c'est très étonnant parce que vous vous dessinez toute petite, toute faible au milieu justement de la mer, de cette grande tache bleue. Ce que vous êtes, sans doute. Mais vous n'avez pas fait de cette vague un léviathan, un monstre marin, pas du tout. Elle peut être menaçante, mais elle est toujours belle.
Non.
Votre vague, il fallait lui donner une dimension esthétique?
Non, il n'y avait pas d'esthétique particulière. C'était vraiment, j'avais pensé d'abord à cette vague d'Okuzai, cette vague qui va s'abattre sur un petit navire. Elle est comme une griffe, en fait. Elle n'a pas besoin d'être monstrueuse. Elle est presque comme une griffe qui va s'abattre sur le navire. On ne sait pas si les matelots vont s'en sortir, s'ils vont mourir. C'est le doute qui plane au-dessus du bateau. Et c'est ça, la violence, elle est là sur ce poids qui va tomber sur le bateau. Il n'y a pas besoin que ce soit monstrueux ou d'en rajouter des caisses pour que ça fasse peur. Je pense, je trouvais que la force d'une vague, c'était assez parlant. Quand je repense par exemple à un film comme Point Break, qui est un film un peu culte, hein. Ouais. Or, j'y ai pas pensé pour le livre, mais on voit à quel point la vague, elle peut tout arracher, tout, voilà.
Et le bleu, les bleus, plus exactement.
Le bleu, c'est un bleu assez spécial. Ça s'appelle une encre de couleur. C'est pas de l'aquarelle, c'est une encre assez vive. Et ce bleu, je l'ai choisi. J'aimais son intensité. J'aimais aussi les nuances qu'il pouvait procurer avec plus ou moins d'eau, en fait, quand on l'utilise. Et ça s'appelle un bleu lumière. Je trouvais que c'était une belle, un beau pied de nez à l'obscurantisme. Et je le dis un peu de manière métaphorique, mais c'est vrai. J'aimais bien cette idée d'un bleu lumière pour transcender l'obscur.
Alors, cette vague, on peut tenter de la colmater, de la fuir, de surfer dessus, et vous dessinez à votre personnage en train de tester toutes ces solutions qui n'en sont évidemment pas. Et votre conclusion est la suivante, Coco, je dois vivre avec. Mmh. Une expression qu'on entend souvent en ce moment à propos du Covid. Mmh. Et on sait tous que l'on peut vivre avec, mais que c'est tout sauf facile de vivre avec. Au moins, avec l'épidémie, on a l'espoir que ça s'arrête un jour. Vous avez l'espoir de pouvoir réellement tourner la page?
Bah, en fait, je parle pas de tourner la page, je parle justement de vivre avec. Et vivre
mais il faudra
avec,
toujours vivre avec.
Vivre avec, ça comprend vivre avec ça, vivre avec ces images qui m'ont intégré et que je n'oublierai pas et qu'aucun d'entre nous n'oubliera de ceux qui ont traversé ça de l'intérieur. C'est quelque chose qu'il nous faudra, quand vous parlez de ces vagues, de ce que j'en fais ou ce que j'en fais pas. C'est même pas, je ne maîtrise pas ça. Je veux dire, je lutte. Et c'est cette lutte intérieure qui, parfois, est dans des phases plus calmes. Mais parfois, des choses vous renvoient à cette violence. Et cette violence, elle peut se réveiller, par exemple, avec d'autres attentats qui arrivent ou... Par exemple, quand on vit un traumatisme comme ça, votre vie change dans des petites choses qui paraissent imperceptibles pour d'autres. Voilà, quand une peur, par exemple, peut être déclenchée par quelqu'un qui vous regarde d'un peu trop près, un peu trop méchamment, moi, aujourd'hui, mon cœur s'emballe facilement. Donc, je sais pas si je serai un jour pleinement apaisée avec tout ça, mais en tout cas, j'apprends à mieux vivre avec, oui.
Ouais, et vivre avec, ça passe par des mots qui sont résistance, combativité, lutte, obstruction, donc des mots de lutte, de combat. Oui. Vous érigez un barrage, une forme de digue de dessin, d'ailleurs. Hein, oui. Il y a une planche où on voit vraiment tout ça. Donc le mur de dessin et la vague en dernier plan, ce qui résonne évidemment avec le titre de l'album, hein, évidemment, dessiner encore. Est-ce que vous pouvez nous décrire les deux pages là que j'ai devant les yeux, qui correspondent aux planches 22, 23? Alors là, on est plus totalement dans la vague, mais on est dans le barrage.
Oui, on est dans le barrage, et comme vous le disiez, voilà, c'est la page juste avant, la page 21, c'est une page où j'ai fait barrage avec le dessin parce que, en fait, rapidement après l'attentat, il a fallu travailler, faire le journal, et ça nous a tenus tous de dessiner. Ça m'a tenu encore davantage parce que c'était presque un réflexe de survie, de se noyer dans le travail et d'essayer aussi de progresser. Et intellectuellement, il fallait que je m'occupe l'esprit pour ne pas penser aux images du 7 janvier. Donc, il a fallu travailler, comme je le dis dans la page 22, voilà, travailler jusqu'à la prochaine lame de fond. Cette lame de fond, elle vient au moment où vous arrêtez de travailler. Moi, à un moment, longtemps après l'attentat, j'ai travaillé jusqu'à très tard le soir parce que j'avais peur d'aller m'endormir, j'avais peur d'éteindre la lumière, j'avais peur de me retrouver seule avec moi, dans le lit, avec ces images qui reviennent. Donc cette lame de fond, elle revient et elle vous emporte dans ce que vous avez traversé de plus abominable, de plus terrible. Je me relevais le matin en me disant qu'il fallait... Il me fallait encore lutter et dessiner, voilà, pour pouvoir me projeter vers quelque chose. Voilà, la page 23, c'est ça, faire barrage, faire obstruction.
Avec les crayons qui entourent votre personnage qui prend des allures de castor.
Oui, là, c'est un peu la rigolade, là.
Oui,
oui, c'était la manière de dire, voilà, et rire malgré tout, ça semble encore possible, parce que continuer le journal, c'était aussi la perspective de se pouvoir se tourner aussi vers la vie, vers ce qui nous anime à Charlie, la possibilité de rire ensemble autour de l'actualité, aussi grave qu'elle soit, en fait. Le rire, l'humour, c'est salvateur dans ces moments-là. Voilà, nous on avait besoin de ça, et je pense que les gens en général ont besoin de rire et de déconner pour pouvoir mieux accepter, mieux se consoler d'un monde un peu dur. Hein,
oui. Alors cette double planche, il y a effectivement donc vous en castor avec le crayon entre les dents, cette digue de crayon, ce barrage symbolisé effectivement par votre outil de travail, par le crayon et donc par le dessin. Et de l'autre côté du barrage, il y a des requins-marteaux. La menace, et si on regarde bien les requins-marteaux, on se rend compte que le marteau de chacun des requins, ce sont les terroristes, les cagoules des deux terroristes, des deux frères Kouachi, des fantômes noirs comme la mort que l'on retrouve un petit peu plus tard en train de monter l'escalier de Charlie Hebdo avec leurs armes braquées sur vous puisque vous avez été prise en otage. C'est un moment particulièrement difficile à dessiner, celui-ci, Coco.
Oui, très dur, oui. C'est vrai que j'ai transpiré à le faire. Parfois même, j'ai pleuré en faisant certaines planches parce que moi, c'est voilà, ça me ramenait à ça. Je me souviendrai de ce moment, jusqu'à la fin, de cet effroi qu'on ressent face à ces deux masses de morts, en fait, des terroristes islamistes qui sont là pour tuer des dessinateurs, pour tuer tout ce qui pense pas comme eux, quoi, pour tuer des gens qui simplement dessinaient et dessinaient pas comme ils voulaient.
Et là, on prend la place de votre personnage. On est écrasé. Un petit peu comme vous l'avez été par ces deux masses noires qui braquent sur vous leur arme.
J'ai essayé de représenter en tout cas ce qu'ils étaient, des masses de détermination, là où moi, eux sont arrivés, il m'a semblé qu'ils étaient très préparés, très entraînés, très déterminés. Et là où moi je l'étais pas du tout, en fait, je descendais fumer une clope avec ma copine Angélique. On était dans une bonne ambiance de rédaction. C'était le début d'année. Ils sont arrivés au moment où on s'y attendait pas du tout.
Voilà, avec ces charmes ou toi, c'est l'une des bulles que vous avez écrites. Et puis on vous voit, ou plutôt vous dessinez votre doigt tremblant qui fait le code. Alors le lecteur lui aussi utilise son doigt pour tourner la page. Coco, et là s'inscrivent trois lettres absolument terribles, T-A-K, tac, 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 donc les rafales de mitraillettes. On l'entend très fort dans l'album, c'est vraiment un choc parce que on s'attend à peu près à ce qui va arriver, mais c'est quand même une page qui est extrêmement marquante, d'une violence extrême. Ça donne vraiment la chair de poule. Je choisis de pas vous faire entendre ce bruitage en studio parce que je me suis dit que c'était pas vraiment nécessaire. Vous l'entendez encore ce bruit quand même dans votre tête, Coco?
Oui, je l'entends et je veux dire quelque chose d'assez surprenant, mais en fait, dans la réalité, c'est beaucoup plus froid que ce qu'on pourrait voir dans les films. La réalité, elle est beaucoup plus nulle, quoi. Il y avait quelque chose de très froid, quoi, et en même temps de très. C'est la réalité, c'était le réel.
Inexorable. Et ensuite, il y a une vraie césure, une forme de grisaille que vous dessinez comme ça sur plusieurs plans.
Absolument pas une grisaille. Non, non, absolument pas une grisaille. C'est que, en fait, après les tac, 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 qui sont les tirs, en fait, j'ai essayé de représenter le silence de mort qui s'est abattu à ce moment-là. Rien d'une grisaille, sinon la vie qui s'éteint, quoi. J'ai essayé de me mettre en condition. J'ai fait ces planches le soir très tard, elles sont au nombre de 4, très différentes, et j'ai noirci des pages à coups de hachures, et il y en a des milliers sans doute. Et j'ai essayé de rendre compte de ça, de ce silence qui vous marque et qui s'est abattu là, à ce moment-là.
Pas de corps, pas de rouge?
Oh non, je voulais pas représenter ça parce que là où d'autres avaient pu l'écrire dans des livres comme Philippe Lançon dans Le Lambeau ou Rhys dans 1 minute 49, eux sont passés par des mots et par une précision qui laisse le lecteur à imaginer quelque chose. Moi, dans mon dessin, dans le dessin, je représente. Je n'ai pas les mots, j'ai les images. Comment voulez-vous faire pour donner l'image de ça, de ce chaos, de ces morts, de cette abomination que les terroristes ont fait régner? C'était irreprésentable et je ne voulais pas non plus enfermer mes amis, mes collègues là-dedans, ni peiner des familles endeuillées aussi. C'était impossible pour moi et puis impartageable aussi. Impartageable.
Elle a jonché d'or et de jade ma routine. Elle a jonché de ce palan et tant de larmes. Mais l'ampleur m'a fait me fissurer. Petit vernis, à bras raccourcis, brasse, petit gabarit, brasse, brasse. Engloutis mes péchés véniels, mes blasphèmes en apnée, brasse. Elle a jonché d'orchidées, l'enfer. Elle a saupoudré de courage mes limbes. Elle m'a arraché un sourire. Elle m'a dit polissons ces gravillons. Avec Yasmina, je divorce avec la grande ours. Aux équinoxes, il arrive que je penche.
Aude à la vie, Alain Bachoum dans VMDN sur RFI, extrait de son album Fantaisie militaire en 1998, et vous avez choisi, Coco, de placer en épigraphe de votre album quelques vers de cette très belle chanson écrite par Jean Fauque. Elle a jonché d'or et de jade ma routine, elle a jonché de sopalin des torrents de larmes, mais l'ampleur m'a fait me fissurer. Pourquoi ces mots-là ?
Parce que déjà cet album de fantaisie militaire, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Bachung dans les lentilles d'eau. Voilà, c'était. On ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous de ces lentilles d'eau. Pour moi, ça évoquait quelque chose. Et cette musique en particulier, parce que ce livre-là, c'est avant tout un livre sur la vie. Et voilà, en bonne fan de Bachung, ces paroles me parlaient. Ça, je trouvais que c'était ça. C'était la vie dans toute son entièreté, qui va des larmes au rire. Et voilà, tout ce qui fait la vie et tout ce à quoi s'accrocher quand on fait un livre comme ça.
Et pour retrouver le plaisir de la vie, il a fallu entamer une longue reconstruction que vous racontez également dans l'album. Et cette thérapie commence aussi par un bruit. Voilà la petite musique régulière du métronome placé en l'argot, je crois, donc plutôt un rythme lent. Alors, vous entendez ce métronome, Coco, dans le cabinet de celui que vous appelez Monsieur EMDR.
Oui.
C'est quoi ce sigle EMDR qui peut sembler assez barbare au profane que je suis?
EMDR, c'est une méthode américaine qui vous fait éjecter le trauma par une sorte d'hypnose, on va le résumer comme ça. Voilà, j'ai rencontré ce monsieur quelques mois après l'attentat. C'est d'autres survivants, entre guillemets, de Charlie qui m'avaient dit, voilà, j'ai vu cet homme, vas-y, ça a marché pour moi, donc j'y suis allée, sans trop savoir ce que c'était, et je crois que j'étais pas prête.
Non, alors c'est pas tout à fait un psy, mais on se dit quand même que les séances avec ce monsieur MDR, il ressemble un petit peu.
On me dit que c'est un peu comme un psy, mais que ça a une méthode un peu particulière basée sur l'hypnose. Voilà. Et moi, je suis très sceptique à l'hypnose à l'époque.
Oui, déjà. Donc, voilà. Ça aide pas pour démarrer.
Non, ça aide pas pour démarrer, mais quand d'autres me disent ça a marché pour moi, disons que je me dis, allez, ben, si ça a marché sur d'autres, j'y vais.
Oui. Donc, l'idée, c'est donc d'évacuer le trauma. Comment ça se dessine, un trauma?
Ça se dessine, c'est dur à représenter, c'est tellement c'est tellement abstrait. J'ai essayé de vous avez montré cette page.
Justement, c'est la page 30, parce qu'on disait que il n'y a pas de rouge dans les pages précédentes. Là par contre, il y a une grosse tache rouge.
Non, oui, c'est d'ailleurs, en plus, je dois
au
vous dire
du jaune.
Cette page, je voulais l'enlever. Je la trouvais bizarre au début, je me suis dit ça fait un peu trop ça fait bizarre ce jaune et ce rouge, et finalement je l'ai laissé parce que je trouvais que ça cassait un peu un rythme, ça mettait de la couleur, c'était un peu surprenant.
Oui. Voilà, c'est pour ça que ça m'a surpris. Alors, je vous pose la question, pourquoi?
Oui, j'ai fait.
Pourquoi et comment? Quelle était votre idée derrière votre pinceau?
C'était un peu pour trancher avec, vous parliez tout à l'heure, cette idée de la vague qui est belle, qui est bleue, qui est aussi, le fil conducteur. Voilà, c'était pour par contraste, en fait, aussi pour casser. J'ai pensé le livre en termes de rythme et en termes de couleur pas mal, donc je trouve que ça tombait bien. Et puis je me suis dessinée en train de me tortiller, et puis quelque chose qui de manière abstraite fuit, quoi, un peu comme un baril de pétrole fuit dans l'eau.
Ouais.
Quoi, je voilà.
Ouais, alors le monsieur MDR là, il vous incite à vous construire un endroit refuge dans votre tête. Alors vous tâtonnez pas mal, mais c'est l'occasion pour la dessinatrice que vous êtes de nous offrir quelques très beaux décors. Quoi, il y a les gratte-ciel de New York, il y a un ciel tout rose, il y a une petite maison perchée sur une sorte d'apic insulaire. Voilà, c'est vous qui le dites. Et puis finalement, c'est dans votre enfance que vous trouvez la solution. Vous vous souvenez des balades en forêt que vous faisiez avec Bobby, qui était un labrador, c'est ça, un labrador noir, et votre papa.
Oui.
Et là, on se dit c'est génial parce que on se dit ça a l'air de marcher.
Oui.
Bon,
en fait, oui.
Ça va un peu foirer quand même.
Ça va foirer après, mais on est en train de spoiler le livre.
Ah
mais
ouais,
Non, il me demande de raconter un souvenir agréable. Donc c'est vrai que c'est un souvenir que j'ai souvent fait des balades. J'aime beaucoup ramasser des champignons en forêt et j'en connais plein, hein, les pieds bleus, pleins de moutons, tout ça. Voilà, je voulais montrer ça. Puis c'est quelque chose d'assez simple. Moi, je suis attachée à ces trucs simples. Voilà, puis avec mon père que j'adore, donc je lui raconte ça. Puis en fait, quand il entend ça, quand le psy, monsieur MDR, entend ça, il veut me le redire, pour que je me plonge. Mais en fait, ça marche pas du tout.
Bon, on raconte pas pourquoi ça marche pas. Alors, on va laisser quand même une petite dose de suspense. Mais bon, ça marche pas et vous repartez du cabinet de ce thérapeute vraiment pas convaincu. C'est quand même une scène très très drôle, hein.
Merci.
Parce que bon, il faut expliquer que l'album peut être effectivement très mélancolique, très triste, très choquant, très violent, mais il y a des moments de franche rigolade.
Je sais pas si c'est très violent, mais c'est vrai qu'il y a des passages un peu durs. Le sujet est dur. Ceci dit, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit jamais violent. Je pouvais pas partager l'ultra-violence de tout ça. Je suis restée dans ce que je pouvais dire et ce qui respectait aussi ma pudeur, hein, naturelle. Je crois que c'était important. Je voulais pas que ce soit pathos et je voulais pas que ce soit impudique.
Voilà. Et quelques pages plus loin, votre dessin nous suggère une autre petite musique. Mmh. Alors là aussi, on change complètement d'univers. Et ça, c'est l'une des grandes forces de la narration de cet album. Coco, on est sur un oiseau. Enfin, vous êtes sur un oiseau, tête extrêmement sympathique. Hein. Il vous laisse monter sur son dos, mais quand il s'envole, c'est quand même pas facile. Hein. Il faut s'accrocher.
Oui, il faut s'accrocher. En général, dans la vie, il faut s'accrocher. Donc je suis dans le cabinet de Monsieur Jean. Il me parle. Il me parle de sa méthode, de comment on va procéder entre nous, et je l'écoute, et je sais pas si ça vous arrive parfois, mais parfois votre esprit divague un peu ailleurs. Moi, ça m'arrive souvent, en vrai, hein. Même avant l'attentat, je peux facilement partir un peu dans la lune. Et là, à partir de ça, j'ai montré cette image de moi et l'oiseau. Alors, une lutte pour tenir sur l'oiseau, mais aussi j'y arrive, j'y tiens. Et ce qui était important pour moi, c'est de montrer, à la fin, c'est que je saute de l'oiseau. C'est cette oui. espèce de saut dans le vide où on se lance, en fait. Je suis face à Monsieur Jean et je vais lui raconter, en fait, ce qui s'est passé. Et j'avais besoin de montrer comment cette attente, ce moment d'hésitation, ce moment est-ce que j'y vais, je tiens, je résiste. Eh ben non, en fait, c'est un vrai saut.
Donc un saut dans l'avenir, en fait.
Non, un saut dans le récit. Un saut dans le récit que je vais lui transmettre, quoi. Je vais lui raconter ce qui s'est passé pour ma journée du 7, comment ça s'est passé. Je vais lui donner le point de départ, en fait, de la thérapie. À savoir, cette journée, je l'ai commencé en déposant ma fille à la halte garderie. Je suis allée acheter des galettes. J'ai repensé, et vraiment, ça s'est passé comme ça. J'ai repensé à ce film que j'avais vu sur le prêtre. Merde, j'oublie le nom, là, comme ça. j'oublie le nom.
C'est une cassette que Charb vous avait donnée.
Voilà, Charb m'avait filé cette cassette. Je regarde le film. Voilà, je suis contente de pouvoir lui dire que enfin je l'ai vu parce que ça faisait des semaines que j'avais la cassette. Enfin voilà, ce début de journée et puis la suite.
Voilà, donc ce qui permet effectivement de débloquer ce récit, le début d'un processus. Alors, il insiste sur le mot processus, hein, monsieur Jean. Et le mot processus, c'est un mot qui intègre la notion de temps.
Oui.
Le temps, c'est un vrai allié, Coco.
Le temps, c'est un allié, mais comme monsieur Jean le dit, le temps, c'est un allié, mais le temps ne fait pas tout. Il faut aussi pouvoir mettre le doigt parfois dans une psychothérapie comme ça, mettre le doigt où ça fait mal, mettre le doigt sur les choses qui vous travaillent, qui vous gênent, et rentrer dans le fond des choses pour mieux prendre de la distance avec ça, et puis trouver un peu d'espace pour respirer, parce que ce 7 janvier, quand je suis arrivée après l'attentat, m'étouffait complètement. J'avais l'impression d'être à chaque fois au milieu de la scène, au milieu de la salle de rédaction quand je parlais, et je me retrouvais noyée là-dedans. Et avec le psy, petit à petit, j'ai pu mettre un peu d'espace, faire ce qu'on appelle aussi en dessin, d'ailleurs, ce pas de côté pour pouvoir regarder simplement les choses et être mieux avec.
Et puis regarder aussi, aussi le monde. Il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup interpellé, ouais. si j'ose dire, c'est cette phrase. Il y a dans la beauté quelque chose d'insoutenable.
Oui. Ça, c'est cette culpabilité du survivant qu'on se prend dans tout son être après tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une réelle douleur d'exister, une réelle difficulté à vivre, et en particulier les moments de bonheur, de vie, quoi, là où la vie est intense et belle, vous vous sentez pas légitime à en profiter, vous vous sentez pas légitime même à être là où d'autres ont perdu la vie.
Pourquoi moi et pas eux ?
Oui, c'est vrai que c'est une question qui vous habite pendant longtemps et qui, moi, parfois, j'y repense encore, je repense à ça. Parfois, ça me prend encore, cette culpabilité. Elle est dure à accepter, cette vie, quand on a manqué de la perdre à ce point-là. Ouais.
Quand on n'a que l'humour et que page après page, malgré vent et orage, on dessine toujours. Quand on n'a que l'humour qui nous montre pourquoi un bon dessin parfois vaut mieux qu'un long discours. Quand on n'a que l'humour on publie dans la presse, au milieu des détresses, de jolis contre-jours. Quand on n'a que l'humour et que l'on nous surveille, car quand pique une abeille, elle se meurt en retour. Quand on n'a que l'humour et un simple crayon, et qu'on a des frissons chaque jour.
on n'a que l'humour. Un 7 janvier au matin, et voilà que soudain, on est mort pour toujours. Quand on n'a que l'humour, que d'un coup c'est la guerre, qu'on est au cimetière pour deux, trois calembours.
Quand on n'a que l'humour pour rire des bourgeois, de Dieu ou de la foi, des aveugles et des sourds. Quand on n'a que l'humour, que l'on caricature le monde et ses blessures pour en rire chaque jour. Quand on n'a que l'humour, qu'on s'appelle Charlie, qu'on est toujours en et même si on n'en peut plus, on va continuer avec ou sans Camus et pour la liberté.
Chanson plus bifurée dans VMDN sur RFI avec Coco pour son album Dessiner encore aux arènes BD. Et vous revenez dans l'album Coco sur la saga Charlie Hebdo, hein, avant et après cette date du 7 janvier 2015. Avant avec le procès, après la publication des caricatures danoises, avec les polémiques sur la liberté d'expression, entre ceux qui disent oui à la liberté d'expression et ceux qui disent oui mais. Ce mais est un mot qui vous semble absolument inacceptable. Il y a aussi cet incendie criminel, parce qu'il y a eu des prémices, cet incendie criminel qui avait flambé le journal et les menaces de mort aussi. On vous voit d'ailleurs, avant même l'attentat, encadré par des gardes du corps, des gorilles vraiment impressionnants, avant l'attentat. Vous aviez conscience du risque réellement, ou bien toutes ces mesures de protection-là vous semblaient exagérées?
Je dirais pas conscience du risque, en tout cas conscience du droit qu'on a de faire ces choses-là, conscience de qu'on est dans un pays libre, conscience qu'on peut dessiner, rire de tout, même de Dieu, même des religions, même de la liberté d'expression. Elle est extrêmement large en France et nous, on n'a jamais outrepassé nos droits. Si c'était le cas, il y avait les tribunaux et ça se réglait comme ça. Voilà, les risques, je n'appellerais pas ça des risques. Est-ce qu'on avait conscience, oui, c'est qu'il y avait effectivement, il y avait des menaces. Après, des menaces jusqu'où elles vont. Si elles restent à l'état de menace, finalement, voilà, qui peut savoir quand ça ira au-delà. Et concernant l'incendie, des mesures avaient été prises. Il y avait eu des protections mises en place, on avait déménagé, on était dans les locaux plus sécurisés. Donc les menaces, on les a prises en compte. Et puis ce qui était le moteur pour nous, c'était de continuer ce journal dans lequel on se marrait, on travaillait, et c'était ça le plus important. Donc, voilà.
Et puis
voilà.
Après l'attentat, c'est la même idée avec ce crayon brandi à bout de bras qui sort des décombres et cette légende « Même pas mal ».
Même pas mal, c'était après l'incendie, oui. Après l'incendie, oui, c'était un peu symbolique. J'étais jeune dessinatrice à l'époque.
Vous avez eu du mal à sortir ce dessin-là et vous est venu facilement?
Non, il est venu comme ça. Il est venu comme ça, mais c'était... Voilà, parfois, pour dépasser un peu la peur, la violence, il faut expulser une idée comme ça de résistance aussi, de résistance, parce qu'on était dans notre droit, comme je vous le dis. Et puis c'était plus important de se marrer et de continuer que de se lamenter ou de s'apitoyer sur soi ou de se gratter la tête à se dire « Ah, on aurait dû, on n'aurait pas dû ». On assumait tout ce qu'on avait fait.
Alors on découvre évidemment dans l'album tous les membres de la rédaction de Charlie Hebdo, la belle ambiance des conférences de rédaction, un peu potache, mais avec parfois des débats assez vifs. Quand même, vous en racontez quelques-uns. Tout le monde n'était pas d'accord. Vous étiez un petit peu intimidé quand même,
face à tous ces
grands noms du dessin de presse.
Absolument, j'ai été intimidée même pendant très longtemps dans cette rédaction de Charlie où il y avait des caractères extrêmement forts. Moi, il faut savoir que je suis arrivée à Charlie en 2007 pour un stage. J'avais jamais fait de dessin de presse de ma vie. C'était presque une culture un peu nouvelle pour moi. Ceci dit, j'ai eu ce que j'ai pu appeler au procès une forme de révélation un peu ironique pour quelqu'un daté comme moi, mais J'ai aimé immédiatement cette ambiance à la fois de travail, de rire, de simplicité aussi, d'humanité, parce que c'était des gens extrêmement humains tous, et ce talent quoi qui moi me fascinait, tout ce qu'il faisait me fascinait, comme disait Gabriel Maris de son père. Moi j'ai été comme ça devant eux. Donc quand on est fasciné comme ça, puis qu'on est plus jeune, on est intimidé et forcément on n'ose pas déranger. Donc j'ai beaucoup observé pendant longtemps. Il n'y a qu'avec Cabu que le contact se faisait, parce qu'il refusait jamais un conseil, ou surtout à quelqu'un de jeune, et en particulier à une fille, parce qu'il aimait bien des filles dans le dessin de presse.
Oui, alors justement, on va écouter Cabu, on va entendre le son de sa voix, extrait d'une émission que j'avais dû regarder à l'époque, en 1985, Récréa 2, avec Dorothée, vous vous souvenez forcément.
Cabu s'est réveillé, il est avec nous aujourd'hui. C'est gentil de venir, Cabu. Mais c'est à ceux, il y a un tel courrier qui veut d'enfants qui veulent savoir ce que tu es, qui tu es. Parce qu'en fin de compte, tu es très 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 timide. Et tu ne parles jamais de toi. Alors aujourd'hui, tu oublies ta timidité et on parle de toi.
Bon, avec toi ça va aller.
Ouais, enfin, je vais essayer, bon. Parce qu'en fin de compte, tu m'as timide aussi. Oh. Tu sais que nos amis nous demandent souvent, comment devient-on dessinateur? Alors toi, comment t'as commencé?
C'est pour faire le métier que je fais, il n'y a pas d'école, mais enfin... j'ai commencé par faire un journal au lycée.
Mais disons, tout de suite, dès le départ, tu voulais... tu dessinais tout le temps.
Oui,
à l'école, c'est ce que tu faisais, non?
C'est traditionnel, quoi. Dès l'âge de 12 ans, j'avais envie de faire des dessins dans les journaux.
Dans les journaux?
Oui, parce que quand j'étais petit, il n'y avait pas encore de télévision, tu vois.
Il y a longtemps, alors.
Enfin, c'était les débuts de la télévision. Alors... J'ai fait un petit journal où j'étais le rédacteur en chef, je distribuais, je le vendais, tu vois, je faisais tout. Et je faisais une page de dessin pour passer mes dessins.
Oui, parce que c'est le moyen d'avoir ses propres dessins dans un journal, je veux dire.
Et après, à 15 ans et demi, je suis allé voir le rédacteur en chef d'un journal régional qui s'appelle L'Union de Reims. Et ils m'ont passé des dessins, au début un par semaine, puis après j'en avais presque chaque jour. J'ai appris à dessiner là, j'allais au conseil municipal, je faisais les caricatures des...
Déjà,
oui.
À 15 ans?
Oui, à 15 ans, oui.
C'est assez surprenant quand même.
Alors, à partir du moment où t'es imprimé, tu vois tes défauts, tu vois mieux tes défauts.
Cabu en 1985 dans l'émission Récréa 2. C'est comme ça, c'est à la télévision, dans cette émission-là, Récréa 2, que vous avez vu Cabu pour la première fois, Coco, comme tant d'enfants.
Oui, moi je suis de 82, donc c'est plutôt le Club Dorothée.
Ah,
mais c'est vrai
oui.
Que j'avais pu voir un peu de Récréa 2. Heureusement, il y avait un truc génial qui s'appelait la cassette.
Ah oui, c'est pas mal, ça. C'était pas mal, oui, effectivement. Bon, ami des enfants, Cabu envoie timidité en même temps, dessinateur prodigieux, humble, généreux. La transmission, c'est très important aussi pour lui. Là, il explique effectivement sa carrière aux enfants, mais il vous a aussi donné des conseils. Il y a une scène où vous lui amenez un dessin un peu toute tremblante. Mon Dieu, est-ce que je peux déranger Cabu ou pas? Et finalement, il vous accueille à bras ouverts. Quoi.
Oui, il accueille à bras ouverts, et même les générations avant moi, que ce soit Luz, Rhys, Charb, quand ils l'ont rencontré, c'était pareil. Il a toujours été dans cette transmission du dessin, de donner un peu ses conseils, ou toujours aider, en fait, toujours aider à ce que le dessin mûrisse, développe et progresse quoi chez les autres. Et puis aussi, c'est un dessinateur qui, il était à Récréa 2 au Club Dorothée, il a pu bosser à Pilote, au Canard Enchaîné, à Charlie, il a pu faire des reportages géniaux. Ou alors, je pense au Beauf, je pense au Grand Duduche. Vous voyez un peu, c'est l'exploration du dessin sous toutes ses facettes. Et j'oublie encore même le Cabu New York.
Oui.
Tous ces reportages magnifiques qu'il a pu faire avec du dessin très vif. C'est vraiment un regard, le dessin.
Oui. Et d'ailleurs, il vous dit, il faut commencer par le regard.
Oui.
Si tu arrives à faire un bon regard, le dessin, c'est 50% de la caricature.
Exactement.
Vous avez suivi son conseil?
J'essaye, en tout cas. J'essaye encore de l'appliquer. Oui. Surtout que là, avec... Quand Macron est devenu président, il y a eu un nouveau gouvernement avec des nouvelles têtes à dessiner. À chaque fois, c'est un peu comme ça. Les visages des politiques se renouvellent. Du coup, il faut les appréhender à chaque fois. Donc, on repense toujours à cette méthode quand on dessine après une nouvelle tête.
Ouais, alors, vous racontez hein, comment Cabu, Charbe, Charlie Hebdo vous ont mis le pied à l'étrier. Vous racontez un de vos premiers reportages. Mmh. Hein. Et vous citez aussi Cavana qui disait « Un dessin, c'est un coup de poing dans la gueule ». C'est ce que vous pensez quand vous dessinez ?
Oui, oui, je pense qu'il y a des nuances. Cabu disait aussi « Un dessin, c'est un coup de poing dans la gueule avec un gant de velours ». Je trouve que cette phrase de Cavana est un pilier pour chaque dessinateur de Charlie. Après, en fonction des tempéraments qu'on a, je veux dire, ça peut être un coup de poing ou alors une grosse gifle bien humiliante. Ça peut être, il peut y avoir des variations, je trouve, dans cette nuance de coup de poing. Le coup de poing, c'est le point de départ. Je pense que quelqu'un, par exemple, comme Willem, c'est vraiment un uppercut ou un coup de savate. Ou voilà, mais à chaque fois, c'est vrai que le dessin de presse, il faut que ça cogne. Il faut que ce soit impactant et il faut que ce soit immédiat, quoi. Donc, on peut pas non plus. Ça peut pas être une caresse, un dessin de presse.
Ouais, alors, vous citez Willem, à qui vous allez succéder au sein du journal Libération. Il part à la retraite hein, le 1er avril prochain. La date sonne évidemment comme un clin d'œil. Vous allez rester évidemment à Charlie en même temps.
Hein, oui.
Voilà. Le rythme du quotidien, donc il va falloir que vous l'apprivoisez.
Oui.
C'est plutôt excitant ou c'est plutôt stressant ?
Les deux. Je suis à la fois excitée et morte de trouille. Oui, c'est une nouvelle aventure. Je pense que voilà. Il faut pouvoir aussi prendre des risques hein, parfois et pas forcément ronronner. C'est pas que je ronronnais à Charlie. Je suis très bien à Charlie et je suis très contente d'y rester. Willem faisait les deux en fait. Hein. Il faisait Libération et Charlie. Donc je pense que c'est quelque chose de pas impossible. Voilà, il faut que je travaille. Il faut que j'apprivoise ce rythme quotidien. Après, en termes de dessin, j'y vais. Avec mes idées, mon coup de crayon et mes indignations qui sont nées de mon apprentissage à Charlie. Donc c'est une Charlie qui va à Libé.
Voilà, et vous racontez
c'est d'ailleurs ça qu'on vient chercher, reprises, d'ailleurs.
Le compagnonnage entre Libé et Charlie, Libé qui a toujours tendu une main secourable
oui.
lorsqu'il était besoin à Charlie, notamment donc face à l'incendie et ensuite plus tard.
Oui, alors après, ceci dit, quand j'ai fait le livre, je savais pas qu'on allait me proposer ça à Libé. Hein.
Oui, bon, voilà.
Ça au moins, s'est fait comme ça.
Voilà, merci beaucoup Coco d'être passé nous voir
merci.
Dans les studios de RFI. Je rappelle que votre album Dessiner encore est disponible aux Arènes BD.
Un soir où je prenais racine entre la cuisine et le bar. Dans un état secondaire, planté comme un conifère devant ma machine à frapper les mots, incapable d'en aligner trois, sans me sentir aussitôt la proie d'une effroyable incertitude. J'avais beau me gratter la tête, réembobiner la copie cassette. Quatuor de pointure, ténor de l'appoggiature, martyrise le morceau que j'avais pompé sans le savoir, agencé Bastien Bach, Vivaldi, Albinoni et peut-être aussi à Wolfgang Amadeus Mozart. Bien que n'étant pas homme à désarmer devant les aléas de la création. Là, je me sentais comme une chenille accablée à la pensée de finir papillon. Lorsqu'une idée sublime, gracieuse et légitime, surgit du fond de mon inconscience, en vain tout naturellement sonner les mains d'une entre mes deux. Alors que je touchais au but, tendu comme une sauterelle en route, un uppercut à la cervelle me décrochait l'occiput.
une foule d'idées préconçues, un flot d'idées contradictoires, un paquet d'idées saugrenues.
La fuite dans les idées. Jacques Higelin sur RFI, vous est-il déjà arrivé de laisser tomber une idée parce que vous la trouviez trop ambitieuse, trop alambiquée, ou juste par peur du regard des autres? Eh bien, si tel est le cas, voici un livre fait pour vous. Il s'appelle « Un jour, j'ai eu une idée ». Il se présente sous la forme d'un album illustré dans lequel un enfant apprend à chérir son idée alors que tout le monde lui conseille de l'abandonner. Le livre est signé Kobi Yamada, il est illustré par Mebisom, il est sorti en 2014 aux États-Unis, il a été récompensé du prestigieux Independent Publisher Book Award et il est désormais disponible en France aux éditions Le Lotus et Le Petit Éléphant. Amélie Beaucourt.
Un jour, j'ai eu une idée. D'où vient-elle? Pourquoi est-elle là? Me suis-je demandé. Que fait-on avec une idée? Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Elle semblait un peu étrange et fragile. Je ne savais pas quoi en faire. Alors je l'ai laissée dans son coin. J'ai fait comme si elle ne m'appartenait pas.
L'histoire commence par un enfant penché sur un gros œuf doré pourvu de deux petites jambes. Une curieuse créature qu'il pense d'abord abandonner mais qui va la suivre et grossir à mesure qu'on lui prête de l'attention. C'est elle, son idée. Le livre est né dans l'esprit de Kobi Yamada, au travail, où toutes les idées ne sont pas accueillies avec bienveillance et où il faut savoir les défendre.
I have absolutely had many times in my life that an idea has been considered too crazy or too ambitious.
Il est arrivé plus d'une fois que mes idées soient jugées trop loufoques ou trop ambitieuses. Parfois, ces critiques venaient de l'extérieur et parfois, elles venaient de moi-même et de mes craintes. J'ai souvent réussi à passer outre, à croire en mes idées, à les défendre. Mais ce n'est pas toujours facile. On a parfois peur de l'échec. Mais il y a justement une leçon à en tirer. Plus vous croyez en vous et en vos idées, et plus vous créez des outils efficaces pour développer votre créativité.
And enhance our own creativity.
Les teintes très douces et aquarellées de l'illustratrice Mebisom évoluent également au fil de l'histoire. Très froide et discrète au départ, les couleurs explosent dans les dernières pages lorsque l'enfant comprend que son idée doit être choyée pour un jour s'épanouir. L'univers onirique rappelle celui du Petit Prince de Saint-Exupéry ou encore certains animés de Miyazaki, des œuvres qui, comme cet album, ne sont pas destinées qu'aux enfants.
It's not a book just for kids.
Ce n'est pas un livre exclusivement pour les enfants ou pour les adultes. Il s'adresse à ceux qui veulent construire des ponts entre ces générations. Les plus jeunes pourront grandir avec ce livre, les plus âgés pourront regarder en arrière avec davantage de recul. Il doit surtout faciliter la discussion entre eux.
Le plus dur, selon Kobi Yamada, c'est de franchir le pas. Alors pour ceux qui n'osent pas se lancer, il a un dernier conseil.
You are the only you.
Le conseil que je donnerais, c'est vous êtes le seul à pouvoir le faire. Qui d'autre que vous peut défendre vos idées, vos rêves et votre créativité face au monde entier? Tout ce qui vous retient, c'est la peur. On l'a tous en nous. Elle peut parfois nous déstabiliser, mais il ne faut pas la surestimer, car elle cache de très belles choses. Et nos idées comptent sur nous pour s'en affranchir.
And our ideas are counting on us.
Quoi savent-ils au juste? Après tout, c'est mon idée, personne ne la connaît aussi bien que moi. Et peu importe qu'elle soit différente et bizarre, et peut-être un peu folle, j'ai décidé de la protéger, d'en prendre soin.
Une ode à toutes les idées qui sont un jour nées dans nos esprits mais qu'on a abandonnées, cachées, malmenées, et à toutes celles auxquelles on a donné du crédit et qui ont abouti à des choses formidables.
Et puis un jour, il s'est produit quelque chose d'incroyable. Mon idée s'est transformée sous mes yeux. Elle a déployé ses ailes, elle a pris son envol et elle a envahi le ciel.
Reportage d'Amélie Beaucourt pour VMDN. Dans une poignée de secondes, vous avez rendez-vous avec toute l'actualité. C'est évidemment le journal sur RFI. On se retrouve demain avec le chanteur Gaëtan Roussel pour son album « Est-ce que tu sais ?» chez Play 2 et vous m'en direz des nouvelles.
RFI, la sélection du mois.